Je suis Zoritza, votre coach en image de soi. Retrouvez-moi tout de suite pour notre capsule de croissance personnelle, Éclore. Soyez votre plus belle réussite. Bonjour auditeurs de Radio Gemozo et bienvenue dans cette capsule de croissance de soi présentée par Zoritza. Zoritza, tu es coach en image de soi et tu vas aborder différents thèmes liés à la croissance personnelle. Aujourd'hui, pour cette deuxième capsule Éclore, soyez votre plus belle réussite, tu nous parles de ce sujet que l'on entend souvent, tu nous parles d'ego et comment l'utiliser pour grandir. Alors tout d'abord, Zoritza, qu'est-ce que l'ego ?
Bonjour à tous, bonjour Lia, merci, ravie de continuer effectivement avec cette dimension de croissance personnelle et l'ego. C'est un sujet qui est quand même un petit peu délicat, effectivement, parce que la plupart du temps, on en a une notion plutôt péjorative qui renvoie à l'égoïsme, l'égocentrisme, des attitudes qui sont pas vraiment valorisées socialement. Et effectivement, si on reste sur l'égoïsme, bah c'est décrit comme un tempérament qui consiste à privilégier son intérêt propre aux dépens d'autrui. Et l'égocentrisme considère plutôt son opinion comme la plus importante et se voit comme la personne à suivre et à admirer. Et il s'agit là effectivement d'attitudes qui ne contribuent pas à l'harmonie relationnelle. Et effectivement, l'ego étant considéré comme un obstacle au développement de l'être la plupart du temps, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Moi, j'ai envie de te dire que je préfère avoir une intention, voire une intention positive de l'ego. Et finalement, dans cette approche contre-intuitive que je vous propose aujourd'hui, ça va être de voir l'ego dans sa version positive. Comme une petite citation là que j'aime proposer, c'est à la façon de la vague qui porte en elle la force de l'océan, nous portons en nous la puissance de l'humanité. Et simplement construire voilà, cette identité, l'ego est un acteur privilégié pour ça. Donc, qu'est-ce que l'ego ? J'ai envie de sortir voilà, de cette pensée binaire habituellement, cette pensée binaire habituellement répandue, qui classe en bien ou mal, et aborder avec vous plutôt ici une approche factuelle de nos fonctionnements psychiques. Donc, on peut définir l'ego selon plusieurs courants, selon que l'on s'oriente en psychanalyse ou spiritualité, et j'ai envie de rester simple, mais pas simpliste, en schématisant notre psyché en deux parties. Une partie profonde et enfouie, qui est l'inconscient, appelé le soi, parfois appelé l'âme, l'esprit. Et c'est la partie qui contient toute la mémoire de ce que nous avons vécu, intégré ou pas. Il est également inscrit ce qui a été refoulé dès l'enfance, par souci d'adaptation, par crainte d'être rejeté par les personnes importantes de notre vie. Et l'autre partie, effectivement, de notre psyché, cette partie visible par l'extérieur, la partie émergée de l'iceberg, c'est le conscient, c'est le siège de l'ego, du moi, que nous développons ensemble ici. Donc c'est le masque social, le rôle, la partie de la personnalité qui permet de s'adapter aux différentes situations sociales et satisfaire à la fonction ou posture professionnelle, à l'image sociale. C'est cette partie consciente du psychisme qui représente l'identification de la personne avec son corps, ses expériences, ses souvenirs. L'ego est ce qui maintient conscient et aide à développer une personnalité individuelle originale, une identité. Et c'est aussi l'image positive que la personne a d'elle-même, celle qu'elle pense connaître, celle dont elle se croit capable. Elle s'identifie effectivement à cette partie-là. Et c'est cette partie qui dit « je », qui s'identifie à ses pensées, à ses croyances, à ses possessions. C'est mon, ma, mais. C'est voilà, toute cette partie de réussite sociale aussi. Donc l'ego a pris les étiquettes qu'il a reçues depuis la naissance de la part des parents, de l'environnement, pour se construire, hein, construire cette personnalité. Et l'ego se nourrit finalement de l'influence des autres et du monde. Hein, il est issu de l'éducation et de la culture dans lesquelles il va trier ce qui est bon ou juste et créer des préjugés. L'ego se remplit et se défend en fonction de l'histoire personnelle depuis l'enfance, selon les conditions de vie et expériences psychologiques. Et l'ego peut aussi avoir des prédispositions qu'il pense instinctives, issues de l'héritage génétique. Dans ma famille, on a toujours fait ça, on a toujours pensé comme ça. Donc cette partie de moi est vraiment attachée à perpétuer des traditions et des croyances transgénérationnelles. Et l'ego, c'est cette partie de nous qui se sent blessée, qui se rattache au mental pour tout analyser, expliquer, critiquer, justifier. Voilà.
Eh bien, dis donc, tout un programme. Alors, beaucoup pensent que l'ego n'a pas sa place en nous, hein, on entend souvent ce terme, mais ce n'est pas tout à fait le cas.
Mais non, parce qu'il a un rôle quand même important. Donc, l'ego se définit comme, finalement, la représentation et la conscience de tout être humain, que tout être humain a de lui-même, hein, finalement. Et son rôle est essentiel puisqu'il contribue à la construction de l'image de soi. Comme on l'a vu précédemment, l'ego est un concept, hein, c'est une idée que nous avons de tout ce que nous sommes. Et selon cette idée, je suis ce que j'ai, ce que j'ai fait, ce qu'autrui pense de moi. Donc cette construction identitaire, cette construction de l'image de soi, elle correspond vraiment à ce que moi je vais considérer être et en fonction de quoi je vais agir et faire mes choix. Donc dans cette dimension-là, l'ego, effectivement, il est hyper important, je dirais. Et le concept de base de l'ego est de dire que je suis différent des autres et que c'est là ce qui fait ce que je suis. Donc non seulement je suis différent, mais je vais avoir une valeur différente. Donc l'ego va chercher sans cesse à confirmer cette distance entre moi et l'autre. C'est sa raison d'être quelque part. Il se fie donc à ses perceptions corporelles, aux cinq sens, qui lui permettent de confirmer cette différence. Ce que moi je ressens, ben, ça m'appartient. Et je peux me différencier de l'autre grâce à ça. Et je vais confirmer ma valeur parce que j'ai cette légitimité de ressentir ce que je ressens. Personne ne peut me dire, mais non, t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Si, je ressens ce que je ressens. Donc, dans cette dimension-là, l'ego, il est hyper important pour se considérer soi-même. Et donc son rôle, quelque part, il va être de nous sécuriser, de maintenir l'identité qui a été créée par nos croyances. Et il va aussi, son deuxième rôle, c'est de nous indiquer que nos besoins sont nourris ou pas. Hein, c'est-à-dire que l'ego, il utilise, hein, ce que je te disais tout à l'heure, c'est il va utiliser les émotions. Et donc, si je me sens triste, si je me sens en colère, si j'ai peur, ce sont des sentiments qui m'indiquent un mal-être et qu'il m'appartient de définir le besoin qui n'est pas nourri. Donc, cette indication va simplement me permettre de réussir à communiquer aussi ce besoin. J'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de me sentir respecté, j'ai besoin de me reposer. C'est à chacun d'apprendre finalement à mieux se connaître et à définir ses propres besoins. Et finalement, l'ego, il est là pour m'aider à me dire, mais voilà, là, je me sens pas à ma place. Là, ce que je suis en train de vivre, ça me plaît pas. Cet indicateur, voilà, qui va être émotionnel, fait partie, hein, un peu de notre construction et de notre désidentification de l'autre. Et de s'autoriser à prendre sa place par ce biais-là. Donc, il est très, très fort. Son rôle est très important par rapport à ça.
C'est un peu une jauge.
C'est ça. Oui, oui. C'est un peu, tu vois, le curseur. Voilà, où est-ce que je mets mon curseur et qu'est-ce que je suis capable d'accepter, pas accepter, avec quoi je suis OK, pas OK. Et si je ne m'écoute pas, ben je suis toujours en fait à écouter le besoin de l'autre, à écouter ce que l'autre me demande et pas écouter mon propre besoin. Alors effectivement, on va, comme on dit, il faut se recentrer et retrouver son bon égoïsme. Et le bon égoïsme, c'est je me considère moi. Voilà, je veux... Ok, si je suis blessée parce que je me considère pas respectée par les autres, posez-vous la question, à quel moment est-ce que vous vous respectez vous-même ? Et c'est de ma responsabilité de commencer par me respecter moi-même, parce que la manière dont je me considère moi, c'est la manière dont j'autorise les autres à me considérer.
On doit être notre propre priorité quand même.
C'est ça, voilà. C'est ça. Donc revenir dans ce bon égoïsme, c'est fondamental, parce que si je ne m'occupe pas de moi, et je me dis, non mais moi je suis là pour m'occuper des autres, je vais m'occuper des autres, ok. Mais à un moment donné, si tu ne t'occupes pas de toi, comment tu vas pouvoir faire pour t'occuper des autres si tu n'es plus en état ? Donc c'est vraiment prendre conscience de ce bon égoïsme. Hein, c'est je m'occupe de moi et après je pourrai encore mieux m'occuper des autres.
C'est ça. Voilà. Alors comment on sait que l'on est sous l'influence négative de son égo ?
Alors, comme on vient de le voir, l'ego est utile et il a un rôle important. Et comme toute qualité qui, poussée à l'extrême, devient un défaut, ça, j'aime bien cette définition du défaut, vous pouvez parfois être aveuglé par votre ego. Donc l'impact de l'ego se situe principalement au niveau de nos relations avec les autres. Donc la qualité de notre communication est souvent teintée de l'intention que je pose. Et c'est là où je vous invite à vous poser quelques questions. Refusez-vous que l'on vous donne des conseils? Rejetez-vous les opinions différentes des vôtres? Cherchez-vous à avoir raison? Êtes-vous régulièrement en conflit avec votre entourage? Avez-vous du mal à demander de l'aide? Vous sentez-vous supérieur ou inférieur aux autres? Répondre oui à l'une de ces affirmations indique que votre ego impacte votre communication et vos relations interpersonnelles de manière plutôt négative, car non constructive. Donc, gardez néanmoins en tête que se sentir vexé, blessé et avoir peur sont des sentiments légitimes puisqu'ils indiquent qu'un besoin n'est pas satisfait. Mais nous n'avons pas appris à les identifier finalement et développons alors des comportements de défense et de protection. Quand je suis dans un comportement plutôt agité, plutôt agressif, c'est qu'il se passe à l'intérieur de moi quelque chose qui ne me convient pas. Donc je vais exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais l'exprimer à l'extérieur par un comportement, que ce soit physique ou verbal. Et donc, ce qui se passe à l'extérieur de moi n'illustre que ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en comprenant ça, je peux aussi mettre dans la compréhension, dans ma communication vis-à-vis de l'autre, si autrui, voilà, si l'autre personne, je la vois agitée et plutôt agressive, et que je me désidentifie de ça. C'est-à-dire que ce qu'elle vit, ça lui appartient. Voilà. Je ne le prends pas personnellement, je me désidentifie, et je l'accueille dans sa difficulté. Et là, je peux mettre en place une communication beaucoup plus efficace. Dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te vois agité, je te vois, voilà, je vois que t'es pas bien. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et non pas, ben oui, non, mais quand t'arrives comme ça, t'as pas le droit de, faut arrêter de crier, faut arrêter de t'agiter. Ben, oui, peut-être. En quoi ça me dérange, moi, que l'autre s'agite? Mais en même temps, à quel moment est-ce que je l'accueille dans sa difficulté? À quel moment est-ce que je mets en place une communication efficace?
Alors, on peut donc laisser une place à notre ego et pourrait même nous aider à nous faire grandir. Tu as quelques clés à nous transmettre sur ce sujet.
Oui, alors trois clés que je propose de transmettre. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire de notre ego un démon à supprimer, mais plutôt un compagnon à apprivoiser. J'aime beaucoup cette idée, parce que comme nous l'avons vu, effectivement, l'ego a un rôle important dans la construction de l'image de soi. Et nous gagnons finalement à comprendre son fonctionnement pour nous libérer de ses attachements et devenir lucides et heureux. Donc comprendre ce fonctionnement, c'est aller vers la connaissance de soi, la connaissance des autres et du monde, grâce à la prise de recul et l'acceptation. Et c'est réussir finalement à passer du moi ignorant et soumis au moi libre et conscient. Donc pour ce faire, je vous propose trois clés effectivement pour utiliser ce fonctionnement et ne plus le subir. Donc la première clé, c'est de prendre conscience de nos besoins. Prendre conscience de ce dont j'ai besoin, c'est prendre conscience que j'ai des besoins fondamentaux à nourrir. Ces besoins, ils sont rapidement, voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais on a 5 besoins fondamentaux. On a besoin physique, voilà, de sentir en santé, voilà, physique et matériel. Donc est-ce que je suis en santé? Est-ce que je mange bien? Est-ce que mon sommeil est de qualité? Est-ce que dans mon intimité ça se passe bien? Est-ce que matériellement je me sens, voilà, en sécurité, ma maison, la voiture, tu vois, ma maman. Est-ce que financièrement je suis OK? Donc ça, c'est le premier besoin, voilà, physique. J'ai un deuxième besoin, c'est le besoin de lien, de relation, le besoin de me sentir aimé, le besoin d'exister, le besoin d'avoir ce sentiment de compter pour un groupe, pour voilà, faire partie de quelque chose. Troisième besoin, c'est le besoin intellectuel, le besoin de comprendre les choses, le besoin d'apprendre, le besoin de transmettre, le besoin de partager. Cinquième besoin, c'est le besoin d'avoir du sens, le besoin d'avoir aussi une identité. La question, c'est pourquoi je me lève le matin, voilà, le sens de ma vie. Et le cinquième besoin, c'est un besoin beaucoup plus onirique, beaucoup plus grand, c'est un besoin de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc ces 5 besoins, finalement, on les identifie pas toujours, même rarement. Et quand j'ai un besoin qui n'est pas nourri, je vais descendre dans cette dimension un peu de frustration, d'insatisfaction, où je vais avoir des émotions désagréables. Donc les émotions sont des indicateurs que j'ai un besoin qui n'est pas nourri dans ce cas-là. Et prendre conscience de mes besoins, ça va me permettre aussi finalement d'entendre le message et d'utiliser ce message pour mettre en place la bonne action, pour pouvoir remonter et retrouver ma sérénité. Donc réagir. Ça, c'est première clé, déjà prendre conscience de mes besoins. Deuxième clé, c'est me désidentifier. se désidentifier de mes pensées, des habitudes qui sont issues de mon histoire personnelle. Il s'agit là finalement de lâcher nos fausses identités et de nous réunifier avec nous-mêmes. C'est ne plus prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que l'avis des autres sur moi leur appartient. Donc peu importe ce qui est dit en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je ne suis pas l'autre. Et ce que l'autre dit de moi, bah, il a le droit de le penser. C'est légitime. Si on m'aime pas, ben on m'aime pas. C'est OK. Après, en fonction de l'enjeu, de la situation, je vais m'attarder à est-ce qu'il y a moyen de se faire apprécier plus s'il y a besoin. Mais à partir du moment où je suis alignée avec mes valeurs, avec ce que je veux faire, si je suis en congruence avec moi-même, c'est tout à fait OK que je plaise ou que je déplaise. Et comme j'aime à dire, je préfère plaire et déplaire pour qui je suis que l'inverse.
Ah oui.
Donc c'est vraiment se désidentifier et à partir du moment où j'ai conscience de qui je suis, c'est se dire aussi j'ai le droit d'être respectée sans chercher à m'imposer à l'autre. J'ai le droit aussi de m'en éloigner. Voilà, ce que je vis, ce que je ressens, c'est OK. Ce que je pense, voilà, j'en parle et je le partage. Et finalement j'évalue, je fais ma mise à jour. Est-ce que mes croyances, elles m'aident à avancer? Est-ce que ça me limite? Est-ce que ça me bloque? Voilà, dans mes échanges, dans ma communication. Et voilà, je me désidentifie de ce que l'autre dit de moi ou pense. C'est aussi entendre ce que l'autre dit, parce que, comme on l'a vu, ce que l'autre me dit, ça peut être aussi un écho à ce que j'envoie comme message au monde, entre guillemets. Et est-ce que ce message, je suis OK avec ça, ou est-ce que j'ai un décalage avec qui je pense être et comment je suis perçue vraiment? Donc ça peut, voilà, entendre ce que l'autre dit de moi, ça me permet aussi de... J'écoute, tu vois, j'écoute, et après, je l'utilise à bon escient. Mais je ne m'identifie pas, je ne suis pas blessée forcément de me dire, bah oui, non, mais je t'aime pas. Bah oui, bah t'as le droit.
Bah oui.
C'est OK. J'en suis désolée. Tant que mon intention est juste dans ma communication, tant que je pose une intention qui est plutôt bienveillante, ça sera OK. Et finalement, la troisième clé, donc la première clé, c'est prendre conscience de nos besoins. Deuxième clé, effectivement, se désidentifier. Hein, je ne prends pas les choses personnellement. Et troisième clé, pour que ce fonctionnement, voilà, de notre ego, on puisse en faire une force, c'est d'utiliser nos cinq sens. Utiliser nos cinq sens pour se connecter à l'instant présent. Hein, finalement, cette capacité que l'on a de ressentir les choses, c'est partir du fait que l'ego, effectivement, utilise la conscience du corps pour valider son existence et le fait que nous sommes distincts, hein, nous sommes distincts des autres. Donc, alors finalement, on va utiliser ce fait, hein, on va utiliser notre corps pour cette connexion et nous concentrer sur notre respiration. Hein. Le fait d'utiliser le corps va agir sur le mental. Donc, le fait d'apaiser le mental par le corps, ça va être grâce à la respiration. Et avoir une respiration plutôt calme et sereine envoie un message fort au mental, comme quoi je suis en sécurité. Alors qu'une respiration, voilà, si j'ai un corps qui est agité, une respiration qui est haletante, le mental va se croire en danger, et voilà, c'est pas là où il va être le plus créatif, c'est pas là où il va être le plus capable de se sentir serein. Et finalement, si vous êtes souvent en conflit avec l'entourage, quelque part, j'ai envie de dire, avant d'engager un échange qui risque d'être tendu, c'est peut-être de respirer et de vous demander quel est le résultat que je souhaite obtenir dans cet échange. Vous serez peut-être ainsi plus en mesure d'adapter une attitude, les mots, en gardant cet objectif en tête.
Ok. Est-ce qu'on a parlé de la mise en situation?
Je peux en proposer une. Tu as l'illustration effectivement avec cette communication où... Parfois, on a une attitude qui n'est pas celle que j'aurais voulu avoir, mais bon, on ne maîtrise pas tout. Sous le coup des émotions, hein, on verra aussi comment les gérer, mais sous le coup des émotions, on n'a pas toujours les bons mots, on n'a pas toujours cette capacité de prise de recul. Donc, peut-être cette croissance personnelle, elle va pouvoir se mettre en place en, en aiguisant cette faculté qu'on va avoir de revenir sur des situations que j'ai vécues. Ok, repenser à une situation où il s'est passé quelque chose et finalement, bah, vous n'avez pas été satisfait du résultat parce que c'est plus l'ego et les émotions qui ont pris les commandes. Donc, en repensant à cette situation, analysez, ressentez, observez-vous. Comment avez-vous agi? Voilà, c'est vraiment de décortiquer, tu vois, a posteriori, de revenir sur cette situation et de décortiquer un petit peu tout ça et de se poser la question, donc la question de croissance, ça serait ça, c'est finalement, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat plus satisfaisant? La croissance, elle va se poser là, c'est que je vais utiliser mes outils, voilà, mon fonctionnement, pour réajuster, pour reprogrammer mon cerveau sur une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire dans les situations.
Ben voilà, tout un bon programme qu'on vous souhaite le meilleur possible. Zoritza, tu nous parlais d'ego aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.